Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Créer une entreprise ne va pas forcément de soi. Certaines étapes de construction d'un projet peuvent échapper à celles et ceux qui ne sont pas rodés à la tâche. Il est possible de trouver formation et aide à la création d'entreprises. C'est notamment ce que propose la SCOP Solstice de Cray avec cette formation intitulée Prémis que va nous présenter mon invité du jour. Il s'agit de Béatrix Verilo.
Ce travail est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail ou qui ne sont pas heureuses dans leur travail et qui souhaitent créer leur activité. Pour le permettre, il y a un premier travail qui consiste à se dire, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et si dans la tête c'est souvent clair, on a envie de quelque chose, quand il faut passer à l'acte, c'est pas si simple de se dire en quoi ça devient une activité, comment je peux en vivre, qu'est-ce que je peux faire? D'où l'idée de créer ce dispositif qui s'appelle Prémis. Donc c'est une aide à la première création d'activité. Donc on est en amont du projet, c'est tout un travail de réflexion, de formalisation, de maturation, pour arriver à savoir exactement en quoi ça consiste, comment de cette idée on arrive à un projet, parce qu'il y a actuellement dans le Val-de-Drôme pas mal de structures qui font de l'accompagnement de projets. Mais ce travail en amont, qui est de l'ordre de l'émergence, c'était plus rare et du coup on s'est dit il y a un besoin qui n'est pas couvert et il faudrait qu'on puisse aider des personnes à aller vers quelque chose de pratique, de réalisable, sortir un peu du rêve et venir vers quelque chose de plus réaliste, pour pouvoir rentrer dans un dispositif habituel d'accompagnement. Donc les cibles, j'ai envie de dire le public cible, c'est principalement des demandeurs d'emploi, des personnes qui n'ont pas trouvé de travail salarié et qui du coup auraient comme ça la possibilité de créer leur propre activité, leur propre salaire. Ça c'est un public, et puis également les personnes qui sont RSA, qui sont peut-être un petit peu éloignées des activités habituelles et puis qui ont envie elles aussi de passer du temps à faire à créer quelque chose. Et du coup, les personnes vont en général nous être envoyées par ce qu'on appelle des prescripteurs. C'est-à-dire que leur correspondant RSA ou le Pôle emploi ou des personnes vont leur dire « Tiens, on a cette formation qui peut vous aider à mûrir votre idée, qui peut vous aider à aller chercher les contacts nécessaires, qui peut vous aider à trouver du dynamisme. » Cette formation a pour particularité, premièrement, cette idée qu'on est en amont, qu'on a un travail à l'émergence, avec en particulier un module de 2 jours, pour vraiment travailler sur quelle est la motivation profonde des personnes, sortir un petit peu des représentations, des chemins battus, faire le point sur elles, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Le deuxième point qui nous paraît important dans ce dispositif, qui est un peu spécifique, c'est que il y a de l'accompagnement individuel, ça beaucoup de personnes en font, il y a des journées de formation, beaucoup de personnes en font, mais entre les deux, on propose ce qu'on a appelé de l'accompagnement collectif. 8 personnes grand maximum, enfin on est plutôt autour de 6 personnes, qui vont réfléchir ensemble à l'avancement de leur projet. C'est ce qu'on appelle un travail avec des pairs. Et pour faire de l'analyse de pratique par ailleurs, je me rends compte que c'est extraordinairement efficace. Et il y a un troisième point dans cette formation, c'est qui est peut-être plus classique, c'est on pourrait appeler ça les clés d'entrepreneuriat. C'est-à-dire quand on a été salarié, si on veut créer son activité, ça demande de changer de posture et de regarder le monde d'un œil un petit peu différent. Et je pense que ça s'improvise pas et ça demande quelques bases. Donc là, il y a aussi un petit module de 2 jours là-dessus. Donc on a décidé de faire un dispositif à entrée et sortie permanente. Toute personne qui se sent concernée par cette formation va contacter donc son prescripteur Pôle emploi, son correspondant RSA, et va pouvoir venir en premier à une réunion d'information. Et les réunions d'information sont régulièrement tous les 3e jeudi du mois, l'après-midi, à l'émission locale.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Salut à tous. tous, bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotop, la Biovallée en pratique, diffusé simultanément à 18h sur Radio Diwa et Radio Saint-Ferréol le jeudi, et rediffusé le samedi à 12h10 et en différé sur Radio Méga. Une émission qui vous invite à découvrir les bonnes initiatives du territoire de la vallée de la Drôme et au-delà. Et ce jour, nous allons parler économie sociale et solidaire, puisque nous avons le plaisir d'avoir un salarié de l'association LADI. LADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Depuis 1989, l'association pour le droit à l'initiative économique aide les micro-entrepreneurs à créer leur emploi en finançant leur création avec un microcrédit et en les accompagnant dans la durée. Sylvain avec nous dans les studios pour nous parler de LADI. Salut Sylvain.
Bonjour Eric.
Et alors revenons-en à la source. Sylvain, LADI est né et s'est développé comment ?
LADI en fait a commencé en 89 à l'initiative de Maria Novak, la première présidente fondatrice de LADI, qui a beaucoup travaillé en Afrique et en Asie, et donc il s'est rendu compte que dans ces pays-là, en fait, il y avait des réseaux, des coopératives d'épargne et de crédit dédiées aux petits producteurs, aux petits agriculteurs, aux petits artisans, aux petits commerçants, qui étaient exclus des réseaux bancaires. Et donc qui arrivait à prêter des petites sommes pour se créer son emploi. Et donc Maria Novak se prend l'initiative de développer la première association de microcrédit en France. L'exemple qui l'a plus marqué, c'est la Grameen Bank au Bangladesh. On en a beaucoup parlé en 2006, Mohamed Yunus et son prix Nobel. En fait, il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de pauvreté au Bangladesh, qu'il y avait très peu d'actions concrètes pour aider ces gens qui avaient la volonté de travailler, qui avaient un vrai savoir-faire, et que ce qui leur faisait défaut, c'était le capital, le financement, et que les banques ne leur faisaient pas confiance pour leur prêter parfois des sommes dérisoires. Il y a un exemple assez éloquent qui est cité dans le livre de Mohamed Yunus, c'est une femme qui fabrique des chaises en bambou, et elle a besoin de 10 euros. Elle a besoin de 10 euros pour avoir son stock de matières premières et les quelques outils, c'est un travail très manuel, pour en fait s'affranchir des usuriers. Puisque cette femme, elle avait besoin d'emprunter 10 euros à des usuriers qui lui récupéraient leur argent avec à peu près 100% d'intérêt. Et donc Mohamed Yunus décide de prêter une toute petite somme, en inventant d'ailleurs une méthodologie qui était vraiment très original à l'époque, en 1975, de crédit solidaire. C'est-à-dire que c'était un groupe de personnes qui se portaient caution mutuellement. Donc voilà, ça c'est un peu les différents voyages et missions, hein, elle travaillait dans le cadre de missions de coopération internationale, qui ont inspiré Maria Novak. Une autre inspiration pour le microcrédit, c'est le début des sociétés coopératives en Europe. En 1850, on a la banque Raiffeisen en Allemagne qui se développe pour créer un réseau de solidarité et de financement entre ouvriers qui n'ont pas de financement soit pour se mettre à leur compte, soit tout simplement pour financer leurs investissements personnels. Donc ils créent les premières coopératives. Et donc on a des systèmes parallèles aux banques qui se créent en Europe, donc qui se développent dans un contexte très différent puisque c'est concomitant des révolutions industrielles en Europe, et donc ils sont très vite transformés, qu'on peut aussi dire qu'ils s'éloignent de la mission originale. Mais voilà, l'ADI, c'est la croisée entre le microcrédit dans les pays en voie de développement et les prémices des sociétés coopératives en Europe. Les premiers microcrédits de l'ADI en 1989, avec un visage très très différent de la structure qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'au départ c'était quelques amis, Maria Novak, qui se sont réunis pour aider les premiers créateurs. Alors, au début on est sur une poignée de micro-entrepreneurs qui sont financés avec des outils de financement et très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Alors d'après toi, qu'est-ce qui explique qu'on puisse partir d'une aussi petite graine pour aujourd'hui arriver à l'ADI, 450 salariés, 3000 bénévoles? Quel est le chemin qui fait que l'ADI arrive aujourd'hui à des chiffres pareils?
C'est simple, en fait, c'est déjà la pertinence de l'idée et qui répond en fait à une demande colossale. En fait, partout dans le monde, donc on a parlé du Bangladesh, de l'Afrique, de partout dans le monde, on a des gens qui se retrouvent au chômage ou dans des situations financières, sociales compliquées et qui ont la volonté de travailler, qui ont la volonté de créer leur petite entreprise ou créer du moins leur emploi et qui ne trouvaient pas de réponse au niveau des marchés financiers, qui ne trouvaient pas des réponses au niveau des banques. Donc, développer une solution pour ces personnes-là, c'est forcément un succès.
Adi, c'est combien d'antennes au niveau national, puisque c'est une association nationale ?
Donc, c'est environ 118 antennes en France, pour 450 salariés et environ 3000 bénévoles.
Comment les antennes se sont développées au gré du temps ? C'est toujours Marianne Novak qui est restée animatrice et coordinatrice de ce projet ?
Alors, Marianne Novak, elle était présidente et ensuite, tout ce qui était au niveau opérationnel, c'était piloté par un directeur général qui est là d'ailleurs depuis une trentaine d'années. Donc, elle avait bien ce rôle à la fois de la stratégie, de la politique de l'ADI et puis avec, au niveau opérationnel, des équipes de salariés. Comment s'est développé le réseau des antennes ? En fait, moi, je ne connais pas l'historique exact des premières antennes qui se sont créées, mais on est structuré par région. Donc, on a une quinzaine de directions régionales qui couvrent tout le territoire métropole et dans les DOM et les TOM. Aujourd'hui, même l'ADI a développé une association jumelle, sœur de l'ADI, qui s'appelle ADI International et qui développe des projets de coopération en Grèce et en Tunisie. Il y a sûrement d'autres projets, j'ai pas la liste exhaustive. Mais voilà, on a eu un développement d'abord sur le territoire français et maintenant sur l'international.
Il y a du bon et du moins bon dans les organismes de microcrédit ?
Alors oui, c'est vrai que dans le monde, il y a à boire et à manger dans la microfinance, puisque depuis les années 80, en fait, il y a eu un développement très rapide, voire un rythme effréné de la microfinance en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Donc ça a donné lieu au meilleur et au pire. Donc si on peut donner les exemples du meilleur, on va trouver dans le monde entier des associations, des coopératives ou des sociétés qui vont faire du microcrédit et en parallèle être très vigilantes à l'impact social en offrant des formations et de l'accompagnement. En France, on peut citer par exemple Entrepreneurs du Monde qui coopère avec une trentaine d'associations partout dans le monde. Et il y en a des dizaines dans le monde. Et puis d'autres exemples un peu plus mitigés, voire complètement controversés, de sociétés qui comprennent que le microcrédit peut aussi être une affaire rentable et donc vont mettre le paquet pour gagner de l'argent grâce au microcrédit. L'exemple le plus marquant, le plus dramatique, c'est SKS en Inde qui en 2008 est devenue une structure énorme. En 4 ans, elle est passée de 0 client à 5 millions de clients avec des dérives dans les taux d'intérêt, dans les pratiques de recouvrement. Et donc ça a permis de pointer du doigt les limites de cet outil. Et donc ça a permis aussi de mûrir ce secteur, puisque si on considère que la microfinance moderne existe depuis 1975-1980, en gros on a 35-40 ans d'expérience dans ce métier. Donc c'est relativement jeune, et donc 40 ans c'est un bon âge pour commencer à faire le point sur ses défauts et ses qualités. Donc depuis 2010, on considère au niveau mondial qu'on rentre dans la phase de maturité du secteur. Et donc on sait ce qui est une bonne pratique et une mauvaise pratique. Et pour moi, l'ADI est un exemple vraiment très très pertinent de bonne pratique de la microfinance, puisque on combine des services financiers qui sont à un coût qui au niveau mondial est très accessible. On a des taux d'intérêt qui sont entre 6,78 et 7,78% d'intérêt. Donc ça reste plus cher que les banques, mais ça s'explique. Mais c'est pour moi une des institutions les plus abordables en termes de coûts si on compare avec tous les autres pays du monde. Et puis donc elle combine des services financiers accessibles et une offre très pertinente de formation et d'accompagnement.
La fiche technique de l'ADI, c'est combien de dossiers traités ? Quelles sont les natures un petit peu des différents dossiers ?
Alors je vais te citer quelques chiffres sur l'action de l'ADI. 132 000 crédits depuis 1989. Et puis en 2013 pour Drôme Ardèche, 173 microcrédits. Et le type de projet qu'on finance, ça va vraiment du tout petit financement à quelqu'un qui veut se lancer dans le dépannage informatique, qui a besoin juste d'un ordinateur pour se mettre à son compte et qui va pas se faire un salaire, mais qui va se faire un complément de revenu. À quelqu'un qui va se lancer dans la maçonnerie, qui va avoir besoin d'une bétonneuse et d'un petit camion, ou quelqu'un qui fait de la transformation agricole, qui va avoir besoin de séchoirs et de machines pour mettre en pot, de la vente sur les marchés, quelqu'un qui va vendre des robes orientales, etc. En tout cas, ce qui réunit toutes ces personnes, c'est qu'on est sur des petits projets en termes de financement. C'est des projets qui ont des plans de financement inférieurs à 20 000 euros et qui demandent à l'ADI entre 500 et 10 000 euros.
Quels sont les partenaires financeurs de ces microcrédits sur lesquels l'ADI s'appuie, bien sûr?
Alors, on a deux types de partenaires financeurs. On va avoir ceux qui vont nous subventionner. Et donc, ceux qui nous subventionnent vont être soit des collectivités, en comptant sur tous les niveaux de collectivités, de la commune jusqu'à l'Europe. Et on va avoir les financeurs qui vont faire du refinancement de lignes de crédit, c'est-à-dire ceux qui nous prêtent de l'argent que nous-mêmes, on va prêter aux micro-entrepreneurs. Et donc, ceux-là sont les banques. Et à peu près toutes les grandes banques françaises vont nous prêter pour qu'on puisse faire des microcrédits.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
On continue sur les partenariats techniques et prescripteurs.
Alors, le premier prescripteur, c'est Pôle emploi. Donc, au niveau local, à Cray, on travaille avec Pôle emploi. Mais même au niveau national, on a un partenariat très avancé avec Pôle emploi qui a été signé au niveau national. Et les autres acteurs, les autres partenaires de l'ADI vont être les acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc c'est important de citer en Rhône-Alpes le réseau Créafil qui réunit tous les acteurs qui interviennent dans la création. Donc ceux-là, ils vont, quand ils rencontrent quelqu'un qui peut avoir besoin de financement, et ben, ils vont orienter cette personne vers l'ADI. Donc là, on peut citer les réseaux France Active, France Initiative, les coopératives d'entrepreneurs salariés comme Solstice, on peut citer Archer à Romans, et j'en passe, il y en a de très nombreux. Et aujourd'hui, on arrive à un fonctionnement assez bien huilé, où quand quelqu'un a besoin de financement et qu'il correspond en termes de montant à l'ADI, eh ben, il nous trouve assez facilement.
Alors peut-être que pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent, on va tout simplement suivre le cheminement donc d'une personne qui aurait été repérée par Pôle emploi et qui se voit proposer un rendez-vous ou au moins une prise de contact avec l'ADI. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne ?
Voilà, bah, par exemple, quelqu'un qui est demandeur d'emploi, Pôle emploi va lui dire de s'adresser à l'ADI. Donc nous, maintenant, on propose des réunions d'information collective tous les mercredis à 10h à Valence. Dans notre siège, et donc c'est une réunion où on présente tous nos services, tout qui on est et ce qu'on propose. Et donc à l'issue de cette réunion, on fait un petit entretien pour soit directement prendre rendez-vous avec le conseiller, avec moi, pour la Drôme, soit pour faire un premier rendez-vous d'accompagnement pour aider la personne à valider son modèle économique, à choisir son statut juridique. Et ensuite, de toute façon, elle arrive à un rendez-vous avec un conseiller pour une demande de financement. Donc là, c'est un rendez-vous qui peut durer jusqu'à 2 heures, pendant lequel on va parler du projet et de la situation familiale de la personne. Et ensuite, si tous les critères sont réunis, si tout se passe bien, le dossier est présenté en commission de crédit. Donc là, ça a lieu toutes les semaines pour valider ou non la demande de financement. Si le dossier est accepté, ensuite on se réunit avec le demandeur de financement et son garant pour la signature d'un contrat. Ensuite, dans les jours qui suivent, il va pouvoir recevoir son financement. Et à tout moment, en amont ou en aval, à tout moment, il peut demander des services d'accompagnement. Ça peut être avec un bénévole sur le territoire ou on a aussi un service téléphonique d'aide juridique pour les personnes qui se posent des questions, s'ils hésitent entre une SARL, un statut d'auto-entrepreneur, sur un contrat d'assurance, un bail. On va leur fournir un service téléphonique avec des experts qui pourront répondre à toutes leurs questions.
Quelle est la somme plafond, on va dire, hein, que l'ADI peut octroyer sur un projet personnel ?
Alors le plafond aujourd'hui, c'est 10 000 euros. On peut prêter jusqu'à 10 000 euros. Mais le montant moyen de nos financements, il est de 3 000-3 500 euros.
Tout ça, c'est en fonction du projet, bien sûr, en concertation avec toi.
Voilà. Donc oui, c'est en fonction des besoins et c'est aussi en fonction de ses capacités de remboursement. Puisque on va être très vigilant à ce que la personne ne se mette pas en difficulté avec le prêt. Puisque la limite et le risque auquel on pense beaucoup, c'est le surendettement. Puisque un prêt, ça demande d'être remboursé. Et on sait qu'il y a eu des organismes qui sont aujourd'hui un peu plus contrôlés, mais qui ont fait du prêt un petit peu dans tous les sens. Et que pour certaines familles, ça pouvait être une manière de mieux vivre à court terme que de prendre des prêts. Donc nous, on est très vigilants. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, des personnes qui ont des crédits à la consommation, des crédits revolving et compagnie. Donc on va bien regarder la situation familiale de la personne et sa capacité de remboursement.
Pour ces personnes qui auraient un dossier chez vous, il faut qu'il soit accompagné d'un garant.
Alors oui, on demande un garant pour les microcrédits. Le garant, il va s'engager sur la moitié du montant qu'il demande. Et pour nous, c'est important d'avoir un garant, puisque quand on parle de crédit, si on revient à l'étymologie du mot crédit, on parle de confiance. Donc nous, avant que nous, on fasse confiance à un créateur d'entreprise, on veut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui fasse confiance. Donc quelqu'un de sa famille, un ami, qui va pouvoir lui donner un coup de main si un jour il est en difficulté pour rembourser.
Voilà, donc en imaginant que le dossier soit accepté, l'argent débloqué, suite à cela, il y a un accompagnement qui est mis en place pour assurer tout le suivi, j'imagine jusqu'à la fin du remboursement, comment ça se passe ?
En fait, donc l'accompagnement, il peut commencer avant le financement, puisque je t'expliquais que avant la demande de financement, on peut déjà faire une aide sur le choix du statut juridique, sur valider le modèle commercial, économique. Et après, pendant toute la durée de vie du crédit, et même après, en fait, même une fois que le crédit est fini, si la personne a besoin d'un coup de main, d'un rendez-vous de suivi, d'accompagnement, il peut le faire à tout moment. Et en fait, c'est à la demande. C'est soit moi j'identifie que la personne a besoin d'un appui sur la partie juridique ou sur la partie commerciale, et dans ce cas-là, on va aller un peu vers lui sur ces questions-là, mais ensuite c'est à la personne de se saisir de l'offre qu'on lui propose. Et les gens qui en ont besoin le font, nous appellent régulièrement pour valider un nouveau flyer, pour valider un local, ils hésitent entre deux locaux et ils lui demandent qu'on visite avec eux le local, pour valider un contrat de bail justement, est-ce que le contrat de bail respecte les règles, pour valider tout plein de questions, mais c'est la personne qui en fera la demande. Ça va pas être obligatoire, on va pas avoir un rendez-vous imposé sous peine de sanction, on n'est pas du tout dans ce système-là, c'est volontaire et gratuit. Donc c'est la personne qui se saisit de ce qu'on lui propose.
Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour du rendez-vous individualisé. Il peut y en avoir donc sans limite, on peut avoir de l'information régulièrement. Donc au niveau géographique, le plus près de chez nous c'est Valence effectivement, mais je crois qu'il y a d'autres antennes hein, sur la Drôme et l'Ardèche.
Pour nous rencontrer, c'est assez simple, on essaie de se rapprocher au plus de nos clients, donc on est un peu partout sur le territoire. On est à Die tous les jeudis, on est à Cray sur rendez-vous, à Valence les mercredis à 10h et à Romans les mardis après-midi tous les 15 jours. Et puis s'il faut se déplacer, on est prêt à se déplacer. S'il faut aller sur le plateau du Vercors, on y va, ça nous sort de nos bureaux et tant mieux.
Peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent, tu as rappelé qu'on pouvait te rencontrer sur des permanences donc ouvertes sur rendez-vous pour certaines. On peut aussi peut-être te rencontrer sur des salons. Souvent on fait ta rencontre sur des salons de l'emploi ou des choses comme ça.
Oui, alors on s'était rencontré justement au salon Créafil, j'en ai parlé tout à l'heure, le réseau des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et le prochain, bon, il est en septembre, le 5 septembre à Livron, à la mairie. D'ici là, on peut se rencontrer sur les lieux de permanence que j'ai évoqués, à Cray, sur rendez-vous ou à Die, tous les jeudis.
Et puis pour plus d'infos, on va sur le site de la Die.
Voilà, tout à fait.
Site internet. Bon bah écoute, merci Sylvain.
Merci beaucoup Eric.
À très bientôt.
À bientôt.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Un programme soutenu par BioValley.